RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'était il y a tout juste 30 ans, le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Cela a provoqué la plus grande catastrophe connue en matière de nucléaire civil. La Biélorussie, dont la frontière méridionale est située à 11 km de la centrale, a été le pays le plus touché par les conséquences de la catastrophe. 140 000 personnes ont dû être déplacées sur une population totale de 10 millions d'habitants. 30 ans plus tard, les autorités biélorusses veulent tourner la page de Tchernobyl. Pour de nombreux jeunes nés après le drame, cet événement fait partie de l'histoire. Il est virtuel au point qu'il a inspiré des jeux vidéo. Et le gouvernement de Minsk a décidé de construire dans le nord du pays la première centrale nucléaire biélorusse. Et pourtant, pour de nombreux Biélorusses, la catastrophe est encore très présente. Biélorussie, les oubliés de Tchernobyl, c'est un grand reportage de Muriel Pomponne et Alexandre Lavigne.
C'était le 26 mai.
26 avril.
Ah oui, avril. On travaillait sur la route, on a eu des maux de tête et envie de vomir. On a pensé qu'ils avaient commencé l'épandage d'engrais dans les champs et qu'on nous l'avait caché. C'est seulement au mois de mai qu'une factrice est passée pour apporter le courrier et elle a dit « Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé ? Les Américains ont fait sauter la centrale de Tchernobyl. »
Elena a 86 ans, son mari Vassili en a 89. Ils habitent Minsk, ils ont été les derniers à quitter leur village à une quarantaine de kilomètres de la centrale de Tchernobyl. Berachevska a été rasée, désormais il n'y a plus qu'un cimetière et des champs de céréales.
Je travaillais comme technicien chimiste à la station de désactivation, là où on dépolluait les voitures. On lavait les voitures, on les lavait, on les relavait.
Et la station où il a travaillé, ensuite ce sont les Azéris qui l'ont acheté. Ils ont tout démonté, tout emporté en Azerbaïdjan.
C'était du matériel qui était cher, alors ils l'ont emporté pour la ferraille. Quand on a mesuré le niveau de radiation, ça dépassait toutes les normes possibles.
C'est quand même parti en Azerbaïdjan.
Oui, ce sont les Azéris qui l'ont acheté.
Vous, monsieur, vous avez travaillé combien de temps à l'usine de décontamination des véhicules ?
12 ans. L'eau utilisée pour nettoyer les voitures, on la mettait dans des réservoirs qui contenaient 3600 mètres cubes d'eau. On nous disait de faire attention que les enfants n'y touchent pas. Cette eau devait être pompée et transportée par train jusqu'au nord de la Russie pour être traitée. Un jour, en 1997, des officiels sont venus en visite. Après leur départ, on a demandé au chef si l'eau allait être emportée comme prévu. Alors il a répondu « Ne dites rien, que personne ne soit au courant. On va verser l'eau par terre, pas plus de 100 mètres cubes par jour pour que ça ne se retrouve pas dans les puits. » Ils ont versé l'eau, la neige a fondu et au printemps, cette eau s'est retrouvée dans un canal d'irrigation. Avant, il y avait des poissons, surtout des carpes et des ragondins. Mais après, il n'y a eu ni poissons ni ragondins. Et aujourd'hui, 20 ans après, il n'y en a toujours pas.
Pour ce travail, Vassili ne portait qu'une simple vareuse, aucune protection spéciale. Il est le seul survivant de l'équipe. Jusqu'à la fin des années 90, en tant que liquidateur, il touchait une double retraite. Mais c'est fini. Le statut de liquidateur n'existe plus en Biélorussie, contrairement à l'Ukraine ou la Russie. Adam et Claudia, eux, vivaient à 20 km de la centrale. Ils avaient une trentaine d'années quand ils ont dû partir.
Ça, c'est nos insignes de liquidateur. Ceux qui ont travaillé à la centrale, qui ont participé à l'évacuation des enfants ou aux opérations de décontamination radioactive ont reçu ces médailles et une attestation. Dans les premières attestations de l'époque soviétique, il était écrit qu'on était des liquidateurs, mais maintenant on est seulement des victimes.
Je l'ai gardé. Ici, c'est marqué article 19, et c'était un privilège. Une fois par an, on pouvait aller se reposer dans un sanatorium. Les médicaments étaient gratuits et les transports publics aussi. Maintenant, on dépend de l'article 24 qui ne donne rien. À la télé, les autorités disent qu'on peut vivre normalement maintenant, que tout est propre, qu'il n'y a plus de zone. Mais je peux vous donner l'exemple de ma propre famille. Moi, j'ai souvent des migraines et des paralysies temporaires. Et chaque mois, je dois dépenser 1 million de roubles en médicaments, environ 50 euros. Ma fille, qui a 35 ans, a un cancer. Elle a déjà été opérée 2 fois. Et sa fille vient de rentrer de l'hôpital régional de Gomel et ils ont diagnostiqué de l'arthrose dans les jambes, ma petite fille de 5 ans et demi. Elle a un système immunitaire très faible. Elle est souvent très malade.
Adam regarde avec nostalgie des photos de son ancien village à Strabladi, désormais en zone d'exclusion. Les arbres ont envahi les rues, les cours, les bâtiments en ruine. Ils s'y rendent parfois, notamment lors de la fête de commémoration des ancêtres.
Ça, c'est un album avec des photos de notre village, 25 ans après Tchernobyl, donc il y a 5 ans. Là, c'est notre maison. On vivait dans les bâtiments de l'ancienne école. On y va de temps en temps. Regardez, là, c'est l'école où on travaillait. Il ne reste que les murs. Il n'y a plus de plancher. Tout a été volé, emporté. Là, sur le panneau, c'est écrit « Danger, radiation, entrée interdite ». Lui, c'est notre ami qui vit à Minsk. La salle de sport à côté de l'école, qui avait 3 étages. Et là, la poste. Le village est à 120 km d'ici et à 20 km de Tchernobyl, de la centrale. Le village a été évacué en septembre, mais en tant qu'instituteur, nous avons suivi les enfants qui sont partis plus tôt. En fait, le mois le plus dangereux, le mois de mai, on l'a passé au village. On a planté des choux, on a nettoyé les toits. Les enfants ont été évacués le 11 mai seulement. Impossible de pardonner à ce pouvoir qui ne nous a rien dit. Le lendemain de la catastrophe, il y avait du soleil et mes enfants ont couru dehors. Et puis la pluie est tombée, ils ont couru sous la pluie et je les ai même lavés avec cette eau-là. Je ne peux pas pardonner à ce pouvoir, ils auraient dû nous informer.
Claudia et Adam sont considérés comme des opposants politiques. Ils ont été licenciés de leur poste d'instituteur.
Vous voyez, il y a partout des travaux d'entretien dans la ville à la veille du 26 avril.
Sur la place principale de Bragine, la statue de Vassili Niatenko, le premier pompier arrivé sur la centrale en feu le 26 avril 1986 et qui est mort dans d'atroces souffrances. C'était un enfant du pays. Bragine a été évacué pendant 3 mois. Aujourd'hui, c'est la ville de Biélorussie la plus polluée d'éléments radioactifs. Lyubov a été très malade, elle n'aime pas en parler. Elle a décidé de se consacrer à l'aide des plus faibles.
Voilà, c'est le centre pour les personnes handicapées. Il a été construit et il fonctionne grâce à des fonds étrangers. Aujourd'hui, nous allons planter des tomates et des concombres dans notre serre. On a déjà des radis et des salades. C'est une association qui nous a offert les plants qui viennent des Pays-Bas. Et nos handicapés pourront les manger. Ce n'est pas pour vendre, c'est pour nos besoins à nous. Nous devons apporter de la terre supplémentaire car le sol n'est pas bon ici. C'est ce que nous a dit l'Institut de radiologie. Je vous en prie, entrez. Voici le chef du département social de notre district, Sergueï Varkomets, Elina.
Le principal problème dans la région, c'est le manque d'emploi. Notre district a été le plus touché par la catastrophe de Tchernobyl. Beaucoup d'usines ont fermé et aucune autre n'a rouvert depuis.
Est-ce qu'on a évalué justement les pertes, la chute de production dans la région ?
Bien sûr, après la catastrophe, on ne savait même pas si le district de Bragine allait continuer d'exister. Et pendant 15 ans, on n'a rien fait dans la région. Seule l'agriculture a subsisté. Mais près de 40% des terres cultivables sont dans la zone d'exclusion. Il y a aussi une forte baisse de la population. Avant, il y avait 54 000 habitants dans la région, et maintenant seulement 16 000.
Combien de kolkhozes qui ont disparu ?
Avant Tchernobyl, il y en avait 18. 11 kolkhozes ont disparu, il en reste 7. La génération qui a vécu Tchernobyl ne peut pas oublier. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, de connaissances à cause de cette catastrophe. Il m'est impossible de l'oublier.
Lyubov accueille une dizaine de personnes handicapées, physiques et moteurs, venues prendre un thé. Ce centre, c'est un peu leur maison.
Vous savez, l'aide aux handicapés, c'est un problème encore très important. Beaucoup d'entre eux sont orphelins. Ils peuvent venir ici prendre le thé. Chez eux, ils ne peuvent pas toujours, car leur pension est très modeste. Ils peuvent pratiquer l'origami, se servir d'un ordinateur, d'une machine à coudre. Ils peuvent aussi faire du sport et participer à des compétitions adaptées. Aujourd'hui, nous avons prévu une lecture biblique avec un pasteur. Et nous allons aussi avoir un débat sur le thème « La vie après Tchernobyl, écologie et hygiène ».
Nous rappelons les bons gestes, comme laver et éplucher les fruits et les légumes, se laver les mains après avoir travaillé au jardin. Il faut sans cesse rappeler ces règles importantes.
Puisque vous parlez de ça, est-ce que vous avez l'impression que ce que consomment les gens ici, il n'y a pas de problème, ou est-ce que des fois ça peut être problématique pour la santé ?
Nous faisons des efforts, mais bien sûr, on ne peut pas remplacer la terre de chaque potager. Et tous les citoyens de notre République n'ont pas les moyens d'acheter des produits propres. On fait ce qu'on peut. Nous consommons notre production et aussi des aliments venant d'autres régions. Les produits sont contrôlés par le service du contrôle sanitaire et radiologique. Et puis l'association La Croix Verte distribue des aliments propres et plante des arbres sains.
C'est le pasteur Yuri qui fournit ses plantes saines.
Vous avez l'impression qu'on vous a oublié ?
Ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Mais nous, nous vivons ici. Avant, il y avait des programmes d'État. Maintenant, c'est réduit à néant. L'État manque d'argent, c'est une réalité. Mais rien n'a changé ici. Le strontium reste le strontium. Les radiations sont toujours là, elles aussi. Si vous passez près de la station d'essence, il y a un tableau qui montre le niveau de radiation. Et cette situation économique et écologique dramatique frappe encore plus les personnes handicapées et les plus démunis qui non seulement ont des difficultés physiques, mais également une pension minuscule, 1 million et demi.
1 200 000 roubles, c'est-à-dire 50 euros.
Alors que les prix des denrées alimentaires saines sont comparables à ceux pratiqués en Europe, c'est très cher.
Après la catastrophe de Tchernobyl, 8 villages de la région ont été enterrés et 47 placés en zone d'exclusion. Mais 3 d'entre eux sont à nouveau autorisés. C'est le cas de Savali, habité par quelques irréductibles comme Eugénie, 76 ans.
J'habite ici depuis ma naissance. Avec la catastrophe, on est parti pendant 2 ans dans un village dans le district de Rechitsa, mais c'était moins bien qu'ici. Notre kolkhoz était bien plus propre, alors on est rentré.
Vous cultivez la terre ici ?
Oui, j'ai un potager, tout pousse. Les pommes de terre, les tomates, je ne les traite pas. Et je mets un toit en plastique pour les protéger de la pluie à cause des produits chimiques dans la terre. Mes tomates sont toujours très propres.
Nous croisons sa voisine, Tatiana, 58 ans.
Nous, on est partis pour la région de Minsk avec les 3 enfants. On y a passé 1 année et on est revenu.
Mais vous êtes parti un an, c'est-à-dire en 86, et vous êtes revenu en 87?
Oui, oui, les enfants ne se pesaient pas là-bas. À l'école, les autres ne voulaient pas s'asseoir à côté d'eux. Venir de Tchernobyl, c'était comme avoir une maladie contagieuse. Quand ils rentraient à la maison, ils pleuraient. Ils étaient comme des pestiférés, ce n'était pas tenable. Ici, on est chez soi, vous comprenez?
Mais quand vous êtes revenu en 87 ici, il n'y avait plus rien pour vivre. Comment vous avez fait pour vivre?
Comment ça, plus rien? Il y avait un magasin, un kolkhoz, pas comme avant, mais il y avait un kolkhoz. Mon dernier fils avait 1 an, j'ai demandé du travail et j'ai transporté le déjeuner au tractoriste qui travaillait dans les champs. Mon mari était chauffeur, on vivait bien.
Les céréales cultivées dans la région sont censées servir d'aliment pour bétail. À Bragin, en tout cas, les légumes viennent de régions éloignées. Et en cas de doute, on peut consulter à l'hôpital. Victoria Stepanchik est la directrice adjointe de l'hôpital de Bragin.
Dans cette salle, on fait des tests pour voir la quantité de radionucléides dans le corps. L'année dernière, une seule famille a eu un niveau de radionucléides supérieur à la norme. Ils avaient mangé du gibier. Dans ce cas-là, on envoie la personne à la station sanitaire. Et après 3 mois, elle repasse le contrôle. Et on renvoie toutes les données au Centre radiologique national de Gomel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la salle de test ?
L'homme s'assoit sur un fauteuil spécial qui calcule le nombre de becquerels dans le corps.
C'est un contrôle obligatoire. Avec notre entreprise, on doit passer un test 1 fois par an. C'est comme ça pour tous les habitants du district.
La directrice adjointe de l'hôpital se montre discrète sur les pathologies de la population. Un médecin indépendant accepte de nous en parler.
Bien sûr, il n'y a pas les mêmes pathologies avant et après Tchernobyl. Le changement le plus palpable, c'est la multiplication par 5 des problèmes de thyroïde, des cancers, mais pas seulement. Et cette hausse se poursuit. C'est à cause de la quantité importante d'iode radioactif libérée par l'accident. Aujourd'hui, on constate des pathologies de la thyroïde sur les adultes qui étaient enfants au moment de la catastrophe. Il y a aussi une augmentation des cancers sur les territoires contaminés, chez les personnes déplacées et les liquidateurs. On constate d'autres pathologies liées à l'impact des isotopes de césium et au strontium. Chez l'homme, le césium et le strontium sont stockés dans les muscles et les os. Ainsi, nos jeunes ont beaucoup de problèmes musculaires et d'articulation, des pathologies qui normalement n'arrivent qu'à partir de 50 ans. La pose de prothèses pour les articulations se fait à la chaîne, y compris chez des enfants d'âge scolaire, qui sont nés bien après Tchernobyl.
Bonjour Muriel Pompon.
Bonjour.
La Biélorussie a été beaucoup touchée par la catastrophe de Tchernobyl.
Oui, la Biélorussie a été le pays le plus touché par le nuage radioactif. En effet, Tchernobyl est au carrefour de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie. Et les vents soufflaient vers le nord. C'est donc la Biélorussie qui a été le plus polluée. Par exemple, 35% du césium-137 libéré par l'explosion s'est propagé en Biélorussie, polluant 23% du territoire. Aujourd'hui encore, un cinquième des terres arables ne peut pas être exploité, de même qu'un quart des forêts. 30 ans après la catastrophe, on estime le dommage économique à 235 milliards de dollars, soit l'équivalent de 32 fois le budget de la Biélorussie au moment de cette catastrophe. Pour les conséquences sanitaires, les experts ont des estimations divergentes, mais quand on va sur le terrain, on voit bien que les malades et les handicapés sont plus nombreux qu'avant 1986.
Et pourtant, dans votre reportage, vous dites que le statut de liquidateur n'existe plus en Biélorussie.
Oui, ce statut qui donnait les mêmes avantages qu'aux anciens combattants a été supprimé par le décret du 1er septembre 1995. Ce statut existe encore dans les autres républiques de l'ex-Union soviétique, mais plus en Biélorussie. Désormais, il n'existe plus que le statut de victime de Tchernobyl, qui est nettement moins avantageux, alors que les gens ont de gros problèmes de santé. Par exemple, ils n'ont plus la totalité des soins gratuits, ni la prise en charge des séjours au grand air, qui sont pourtant très bénéfiques.
Alors pourquoi cette décision ?
Oublier le passé, se tourner vers l'avenir, c'est le credo du président Loukachenko. Et donc, pour lui, il faut reconquérir ces territoires perdus. À Braguine, le taux de pollution radioactive qui est affiché chaque jour à la mairie est encore 5 fois supérieur à celui des autres villes du sud du pays qui sont pourtant également polluées. Et pourtant, il a été décidé de développer le district. Les fonctionnaires en début de carrière, les étudiants sont envoyés dans cette région où l'État construit des logements neufs pour essayer de les convaincre de rester. Et pour tenter de repeupler la campagne, l'État a construit de nouvelles cités agraires. En bordure de la zone d'exclusion, on cultive désormais des céréales. La terre est profondément retournée car les couches profondes sont moins polluées et on y met beaucoup de potassium. Car la plante va alors chercher le potassium plutôt que le strontium qui est un élément radioactif dangereux. Tout de même, les vaches laitières ont été reléguées à une 60aine de kilomètres de Tchernobyl car le lait est très sensible aux éléments radioactifs. Toutefois, d'après un rapport officiel biélorusse, la réhabilitation de ces territoires est quasiment impossible car ils sont durablement pollués et très pauvres, comme on le voit dans le reportage.
Et malgré tout ça, la Biélorussie est donc en train de construire sa première centrale nucléaire.
Et oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le pouvoir veut qu'on oublie Tchernobyl. C'est un projet que les experts européens suivent de près et d'après eux, cette centrale de technologie russe est respectueuse des normes de sûreté. Mais c'est en fait un projet très politique visant à renforcer la dépendance économique et technologique de Minsk à Moscou. Et c'est un projet qui inquiète beaucoup de Biélorusses.
Biélorussie, les oubliés de Tchernobyl, votre grand reportage Muriel Pompon réalisé avec Alexandre Lavignec est à retrouver, à réécouter bien sûr sur RFI.fr. This is it, the apocalypse.